Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'actualité de l'Église en ce vendredi 21 juin est dominée par l'audience que le pape a accordée aux évêques de Guinée en visite ad limina apostolorum. Nous parlerons également de la position du Saint-Siège face à la circulation des armes légères dans le monde. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduira en Tunisie, au Kenya et au Niger, entre autres. La deuxième partie de ce programme est dédiée à l'actualité internationale de la semaine. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu en audience dans la matinée de vendredi 21 juin les membres de la conférence épiscopale de Guinée en visite ad limina apostolorum. Plusieurs points ont été abordés, entre autres, les relations Église catholique, Islam, Église, État, mais aussi les rapports entre les évêques, les prêtres et le peuple de Dieu. Monseigneur Raphaël Bala Guilavogui, président de la Conférence épiscopale de Guinée, est revenu sur ces différents points abordés avec le Saint-Père dans un entretien accordé à Radio Vatican.
C'est avec beaucoup de joie que nous avons entamé effectivement au début de cette semaine la visite ad limina. Nous avons visité plusieurs dicastères, entre autres le dicastère pour l'évangélisation des peuples et puis bon, disons la plupart des dicastères. Et alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est pour nous vraiment un moment de mise au point, voilà, un moment de nous mettre aussi en relation avec les différents dicastères. Il y a même des dicastères que nous avons visités pour la première fois, parce que moi, je suis à ma deuxième visite ad limina apostolorum. Et donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est vraiment une découverte pour la plupart d'entre nous. Il y a 10 ans que nous avons fait la dernière visite et à l'époque, nous n'étions que 3.
Actuellement, la conférence compte combien d'évêques?
Voilà, la conférence compte maintenant 6 évêques avec 5 diocèses. C'est une découverte, c'est en même temps vraiment le signe de la communion avec Rome et le signe de l'ouverture par rapport à toute notre Église.
Alors, au cours donc de cette visite ad limina, vous aviez été reçu en audience par le pape François ce vendredi. D'abord, que retenir de cette audience, les quelques points abordés avec le Saint-Père?
Avec le Saint-Père, ça a été très, très émouvant pour chacun d'entre nous, parce que le Saint-Père a causé vraiment de façon très relaxe avec nous. Mais bien sûr que nous avons abordé quelques points, entre autres la situation de l'Église de Guinée, la relation avec les musulmans, puisqu'ils sont les majoritaires, et ensuite la relation avec les prêtres.
Sur ces points, quelques indications.
Il faut dire que la relation, par exemple, avec les musulmans, on peut dire que c'est au beau point, parce que nous n'avons pas un islam radicaliste en Guinée. Et nous avons même donné l'exemple de certains des évêques qui ont une famille qui est mixte, j'allais dire, c'est-à-dire avec beaucoup de parents qui sont musulmans. Donc ça se passe bien. Et mieux, c'est surtout, nous avons mis l'accent sur le fait que l'État travaille beaucoup avec les religieux. Et donc l'archevêque, Monseigneur Vincent, et le grand imam de la mosquée de Conakry sont les 2 personnes de référence, j'allais dire, et à qui on fait recours chaque fois que il y a besoin d'assurer une certaine médiation. Voilà, avec les syndicats, avec les partis politiques, ainsi de suite.
Concernant cette relation musulman-chrétien-catholique, que vous a dit de manière spécifique le pape?
Non, le pape nous a dit de continuer dans le sens d'une collaboration, de manière à ce que les relations à travers les relations entre musulmans et chrétiens, que cela puisse favoriser la bonne convivialité dans le pays.
Et concernant la relation Église catholique-État de la Guinée, vous a recommandé le Saint-Père?
Alors, le Saint-Père nous a dit qu'il faut avoir une très bonne relation avec l'État, de manière à ce que, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays en paix et faire avancer l'évangile sans qu'il n'y ait pas de paix, tant qu'il n'y a pas cette bonne convivialité. Donc c'est dans ce sens-là qu'il nous a recommandé d'avoir une relation vraiment de collaboration avec l'État.
Justement, quelle est la qualité de cette relation Église catholique-État de la Guinée?
Bon, nous pouvons dire que c'est une bonne qualité parce que nous vivons vraiment une bonne relation dans la mesure où, comme je disais tantôt, l'État a souvent recours à l'Église à travers, bien sûr, l'archevêque pour résoudre les questions de paix, questions, voilà, j'allais dire de politique aussi, parce que quand ça ne va pas, entre l'État et les partis politiques, par exemple, nous assumons un rôle de sapeur-pompier.
De médiation. Voilà.
Quand il y a des troubles, c'est à l'Église qu'on fait appel.
Il n'y a pas eu de prise de position des évêques qui a été mal perçue par l'État,
bon,
par les autorités politiques?
Oui, bien sûr que dernièrement, par exemple, au mois de mai, nous avons donné un message adressé à la population, à la Guinée, mais aussi aux autorités politiques. Bon, ce n'est pas toujours que c'est bien perçu.
Alors, le troisième point abordé avec le Saint-Père, la relation entre les évêques et les prêtres, mais également évêques et le peuple de Dieu.
Oui, le Saint-Père nous a recommandé d'être très proche de nos prêtres, parce que le prêtre a besoin de sentir son évêque proche de lui pour le rassurer, mais aussi pour lui permettre de faire un apostolat vraiment, voilà, qui soit efficace.
Concernant le peuple de Dieu?
Concernant le peuple de Dieu, là aussi, il nous a recommandé d'être très proche du peuple de Dieu par les tournées, par vraiment la proximité, parce que nous sommes dans un pays qui est à majorité musulman. C'est même dans ce sens-là qu'on est en train de créer de nouveaux diocèses.
Excellence, avant de terminer, quels sont les défis de l'Église catholique en Guinée aujourd'hui?
Alors, les défis de l'Église catholique en Guinée aujourd'hui, c'est le défi, je dirais, du témoignage. Le défi du témoignage, parce que avec la création de nouveaux diocèses, nous avons besoin de faire en sorte que ces diocèses puissent prendre leur élan et faire en sorte aussi que la présence de l'évêque au milieu de son peuple soit efficace. Voilà, efficace dans le sens que l'Église a besoin d'être efficace, d'être aussi visible. Nous sommes restés pendant longtemps 3 évêques pour toute la Guinée, mais maintenant nous sommes 6 et nous espérons qu'il y ait d'autres évêques, de manière à ce que vraiment l'Église soit plus visible et par conséquent plus efficace dans le témoignage.
Et cela avec l'aide de tout le peuple de Dieu.
Bien sûr. Et c'est cela. L'évêque ne peut pas travailler seul, ni seulement avec les prêtres, mais c'est avec tout le peuple de Dieu.
Que retenir de cette visite ad limina pour les évêques de la Guinée?
Alors, ce que nous retenons, c'est que nous nous sommes sentis davantage vraiment proches de Rome, dans toute sa dimension, j'allais dire, à savoir l'Église qui est synodale, l'Église qui est communion et l'Église qui est missionnaire. Oui, au terme de cette visite, nous aimerions que tout le peuple de Guinée sache que le pape prie pour nous et nous devons prier pour lui aussi, parce qu'on l'a dit. Et il nous a bénis aussi en nous disant de transmettre son salut à tout le peuple de Guinée et à tous les chrétiens.
Monseigneur Raphaël Balagilavogui, évêque de Nzéré Corée et président de la conférence épiscopale de Guinée, interrogé par Françoise Niamien. Restez toujours fidèle à vos convictions, même si vous êtes tenté de vivre une foi tiède parce que les autres vous tourmentent. Restez fidèle à votre identité et restez fort, comme les martyrs chrétiens qui ont été persécutés. C'est ce qu'a affirmé le pape dans une vidéoconférence avec des étudiants universitaires asiatiques, une troisième rencontre organisée en vue de répondre à plus de synodalité. Le premier échange nord-sud remonte à février 2022, le deuxième à novembre de la même année impliquant les étudiants du continent africain. Jeudi 20 juin, des étudiants de l'université Ateneo de Manila aux Philippines de l'Australian Catholic University à Brisbane, de l'Université catholique Fujian de Taipei, Taïwan, de l'Université Sogang, Séoul, Corée du Sud, de l'Université Sophia de Tokyo au Japon et de l'Université Sanata Dharma de Yogyakarta, Indonésie, qui ont pris part à la rencontre, ainsi que des étudiants de Singapour, du Timor oriental et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays que le Saint-Père doit visiter lors de son voyage apostolique en Asie et en Océanie en septembre. Le pape s'est vu présenter les différents groupes d'étudiants qui lui ont fait part de leurs interrogations. Le Saint-Père leur a parlé de l'importance du sentiment d'appartenance à la société et de la façon dont cette appartenance renforce la confiance en nous-mêmes et à notre dignité humaine. En activité du Saint-Siège, Mgr Robert Murphy, conseiller auprès de la représentation auprès de l'ONU, a réitéré la position du Vatican sur les armes légères qui restent l'une des menaces les plus urgentes à la sécurité au niveau national, régional et mondial. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi dans le cadre de la 4e conférence de révision du programme d'action sur les armes légères et de petit calibre et l'instrument international de suivi à New York, le Saint-Siège réaffirme son soutien à la mise en œuvre du programme d'action pour prévenir, combattre et éradiquer leur commerce, ainsi que d'autres instruments tels que la déclaration politique sur l'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées et l'initiative pour faire taire les armes. Des dizaines de milliers de personnes, ajoute-t-il, sont tuées ou blessées dans les conflits à cause de ces armes de destruction massive à mouvement lent, mais aussi dans des zones hors guerre. Ce sont les enfants, souligne-t-il encore, qui sont touchés de manière disproportionnée. Ces armes sont couramment utilisées pour commettre de graves violations à leur encontre, comme le recrutement, les enlèvements et les violences. Le Saint-Siège réitère l'importance d'une approche qui réponde efficacement aux besoins réels des femmes et des enfants victimes de telles violences. L'actualité de l'Église nous conduit au Tchad pour parler de la visite effectuée par la coordination santé de Caritas Sahar dans les centres de santé. Les détails avec Edouard Takaji.
Évaluer les activités de ces centres, mais aussi renforcer les capacités des agents, vivre les réalités sur le terrain sont, entre autres, les buts fixés par la coordination diocésaine de santé de la Caritas. Prosper Beotombay, coordinateur santé de la Caritas du diocèse de Sahar, explique les biens fondés de cette tournée dans les différents centres de santé.
Nos centres de santé sont des centres en zone lacustre, d'accès très difficile. Donc nous profitons d'accessibilité pour faire les derniers réglages avant l'arrêt momentané. Il s'agissait pour nous de faire des supervisions de routine, mais aussi d'en profiter pour faire des formations. Formations axées ces temps-ci sur la connaissance du code de conduite du réseau Caritas et aussi les codes d'éthique.
L'occasion pour lui d'évoquer les difficultés auxquelles font face ces centres de santé aujourd'hui.
Personnel qui n'est pas très motivé parce que sa rémunération n'est pas conséquente. Il y a des centres qui n'ont aucun moyen de déplacement qui limite leur activité. Les autres qui en ont sont des moyens qui ne sont pas adaptés au terrain. Mais aussi, il y a des difficultés en termes d'approvisionnement en médicaments. On se rend compte que les fréquentations commencent à baisser parce qu'ils invoquent les problèmes d'accessibilité financière. Donc, il faut qu'ils fassent l'effort de se présenter dans les structures qui sont mises à leur disposition.
Avec la saison de pluie en ce moment au Tchad, le taux de fréquentation dans ces centres de santé restera faible. N'Djamena, Edouard Takaji pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un militaire tunisien a été tué et un autre blessé vendredi dans le crash d'un hélicoptère de l'armée lors d'un exercice de routine. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'appareil dans la région de Gafsa, dans le sud de la Tunisie. Les deux militaires formant l'équipage de l'hélicoptère ont été transportés à l'hôpital de Gafsa, où l'un est décédé alors que le deuxième se trouvait dans un état stable. Au Kenya, un appel à une journée de grève générale a été lancé vendredi pour le mardi 25 juin pour manifester à nouveau contre le projet de budget de gouvernement prévoyant d'instaurer de nouvelles taxes au lendemain d'une manifestation de plusieurs milliers de jeunes à travers ce pays. Jeudi, lors d'une manifestation contre le projet de budget du gouvernement et l'instauration de nouvelles taxes dans plusieurs villes du pays, un manifestant a trouvé la mort dans la capitale Nairobi. L'autorité indépendante chargée de la surveillance de la police a annoncé qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce décès après des accusations visant un policier. Quelques 11 opposants maliens aux militaires au pouvoir ont été arrêtés alors qu'ils se réunissaient dans la capitale Bamako après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Les fortes précipitations qui s'abattent sur le Niger et les graves inondations qu'elles engendrent ont déjà fait 21 morts et près de 6000 sinistrés depuis fin mai, selon des rapports officiels rendus publics jeudi. Les autorités nigériennes ont retiré jeudi le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium, Limouraren, à l'entreprise française Orano. Terminons avec le deuxième partie de ce programme dédié à l'actualité internationale de la semaine, présenté par Christian Lossambé.
Le camp de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et celui du président français Emmanuel Macron se disputent la troisième place au Parlement européen, avec en arrière-pensée la répartition des postes clés dans l'Union européenne. Le parti Fratelli d'Italia de Madame Meloni et d'autres forces d'extrême droite ont augmenté leur nombre de députés à Strasbourg après les élections européennes du 9 juin. En revanche, le groupe Renew Europe, où se retrouvent libéraux et centristes, dont les élus français de Renaissance, a perdu des sièges. La Russie a indiqué vendredi avoir neutralisé dans la nuit 114 drones ukrainiens qui ont notamment visé la région de Krasnodar dans le sud du pays où une personne a été tuée selon les autorités locales. Les systèmes de défense anti-aérienne russes ont intercepté et détruit 70 drones en Crimée, 43 drones dans la région de Krasnodar et un drone dans celle de Volgograd selon un communiqué du ministère russe de la Défense. C'est l'un des effets collatéraux de la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord ces derniers jours. La Corée du Sud a annoncé jeudi reconsidérer son interdiction d'envoi d'armes à l'Ukraine, une décision motivée par la signature mercredi d'un accord de défense entre Kim Jong-un et le président russe à Pyongyang. Les précisions de notre correspondant à Séoul, Clément Le Breton.
Verrons-nous des armes sud-coréennes utilisées en Ukraine? C'est en tout cas ce que considère le gouvernement sud-coréen. Jusqu'à présent, Séoul s'était interdit de vendre des armes dans des zones de conflit, une décision à laquelle la Corée du Sud s'était accrochée malgré l'insistance de Washington et de Kiev. L'idée était dans le même temps de ne pas se mettre à dos Moscou, qui pourrait en retour soutenir la Corée du Nord. Seulement, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé hier un traité de défense mutuelle, actant une alliance militaire entre les deux pays. C'est donc en réponse à ce traité que Séoul envisage de fournir des armes à l'Ukraine. Jusqu'ici, la Corée du Sud s'était contentée de fournir du matériel militaire non létal, c'est-à-dire des gilets, casques et équipements médicaux. Si la Corée du Sud envoie effectivement des armes à l'Ukraine, ce conflit pourrait devenir le théâtre d'affrontements entre équipements nord et sud-coréens. En effet, la Corée du Nord fournit également des missiles et des munitions à la Russie. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Signalant que la Corée du Sud a convoqué vendredi l'ambassadeur russe à Séoul après que la Corée du Nord et la Russie, sous le coup de sanctions occidentales, ont signé un accord de défense prévoyant une assistance mutuelle en cas d'agression. C'est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, le pèlerinage musulman du Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Il s'est déroulé cette année dans un des pays les plus chauds et en plein été, avec des températures dépassant les 51 degrés. Le stress thermique aurait provoqué la mort de 900 des 1,8 million de pèlerins, de quelque 600 égyptiens, a-t-on appris mercredi, mais aussi de près de 70 indiens et 60 jordaniens. L'Indonésie, l'Iran, le Sénégal, la Tunisie et le Kurdistan irakien ont également signalé des décès. C'est une étape importante dans la situation insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai dernier. 8 personnes ont été interpellées mardi et placées en garde à vue. Elles ont été soupçonnées d'avoir commandité et organisé les exactions, incendies et pillages de ces dernières semaines.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boabualo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
Alléluia, Ibeli, Chambre Papa na Yesu, Chem Chem Yahuzima. Alléluia, Ibeli, Chambre Papa na Yesu, Chem Chem Yahuzima.